Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine des 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Pam, 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 t'appelles la mélancolie. T'appelles la mélancolie.
J'avais ce truc
c'est
en
une nouvelle version du générique.
Non, ah. C'est une chanson, de, je croyais, de Claude François, mais d'Alain Chamfort que j'ai en tête depuis tout à l'heure. Mmh. Et ça me turlupine.
Ah, ça, quand on a une chanson en tête, c'est terrible. Et moi, j'ai souvent les chansons en tête, mais je ne retiens absolument pas les paroles. Donc, ouais. C'est tragique. Je ne peux pas avoir de la mémoire à la fois pour des pitchs de films et des
c'est
la mémoire est sélective. Bonsoir mon
mais
cher
bonsoir,
Hugues.
Bonsoir mon cher Hugues. Vous savez, chez moi, ce sont des vers d'oreille en fait. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et donc, mon seul bégon jaune, bégon vert, c'est d'identifier de quoi il s'agit.
Évidemment.
Et après, je vais beaucoup mieux.
Par contre, heureusement, on se retourne, on voit Laurent Lacroix, on sait que c'est Laurent Lacroix.
Oui. Il n'y a aucun doute.
C'est pratique.
On ne peut pas le confondre avec Laurent Latex.
Non.
C'est Laurent Carreau.
Voilà.
Ça ne fait aucun doute.
Voilà.
Alors qu'Alain Chamfort, Claude François.
Ouais, première partie, deuxième partie.
Ouais, je me demande si le 4 juin à la B-Box, il va chanter.
Mélancolie.
Tu t'appelles Mélancolie. À mon avis, non.
On rappelle, non, si vous lui demandez gentiment, peut-être. Comment ça se passe de votre côté depuis hier ?
Écoutez, plutôt pas mal.
Parce
plutôt
que hier, bon, hier, vous avez fait un excellent point Taylor Swift.
Exact. Mais
donc, vers quel point irait-on aujourd'hui ?
Eh bien, un autre point poids lourd du week-end. Et ce point poids lourd...
Kenji Girac ?
Du week-end. Non, ça, on en a parlé hier.
Oui,
déjà.
C'est vrai, c'est déjà fait.
C'est une histoire à deux balles.
Oui.
Le point poids lourd du
week-end,
c'était en France la sortie de l'album tellement attendu par les fans, de l'album de remix de Mylène Farmer.
Oh.
L'album Remix XL.
Oh.
Les jeux de mots Remix XXL.
Oh.
Double album avec des tas de remixeurs, très curieux les remixeurs. Hein. Des complètement inconnus qui font des fêtes à la saucisse.
Ça vous a marqué la fête à la saucisse de ma série
exact.
Scandinave de la semaine dernière. Hein,
ouais. C'est marquant aussi.
Ah oui, c'est marquant. C'est
pour
marquant.
Peu qu'on soit un peu sensible.
Et
des gens qui remixent à la Vuvuzela, vous voyez.
Oui, 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 oui.
Voilà. Puis alors, on a aussi des remixeurs qui avaient complètement disparu de la circulation. Arthur Baker. Vous vous souvenez
non,
d'Arthur Baker ?
Non, non, désolé, non.
Rusty Egan, ça vous connaissez.
De nom.
Alors Rusty Egan, c'était avec Steve Strange, la moitié de visage.
Ah,
mais
oui.
Aller demander un remix à Rusty Egan.
Ah oui.
On a aussi Cut Killer, enfin des espèces de fantômes des années 80 et 90.
Des types qui ne savent pas du tout qui est Mylène Farmer là-dedans, qui ont juste touché le chèque, quoi.
Non. Oui. Alors, il y a des mauvaises pioches comme Arnaud Robotini. Vous savez, cette espèce de. Bah, il est très très bien, mais le problème, c'est que pour l'instant, il y a des casseroles avec des accusations de harcèlement. Il y a un gros dossier Mediapart qui est sorti. Voilà. On a quand même le Belge de Magician. Et au milieu de tout cela, j'ai quand même réussi, mon cher Hugues, avec ma lampe de poche LED laser, à identifier pour vous, pour moi, pour
nous. Ne me dites pas que les frères de Wall y sont.
Non, vous plaisantez.
Mais oui, je plaisante, évidemment que je plaisante.
Ils ne savent pas qui c'est.
Non.
On a quand même droit à un remix signé David Lynch.
Allez.
Oui. Donc le photographe, le tenancier de bar.
Et le, comment dire, l'ambassadeur de la méditation transcendantale.
Oui, le vaisselier, on dit ça le...
Non, ça c'est plutôt un meuble. Hein.
Oui, on dit comment quelqu'un qui fait de la vaisselle, quelqu'un qui
un
crée...
Un mugiste.
Un quoi ?
Un mugiste.
Un mugiste ?
Il fait des mugs, un mugiste, non ?
On dit un il fait des couverts aussi.
Ça, on appelle ça un Guy de graines.
Oui, un Guy de graines. Voilà, le Guy de graines des branchés. Voilà, un Guy de graines. Donc David Lynch,
donc,
l'homme
qui a fait Good Day Today quand même.
L'homme de Good Day Today.
Ah, oui.
Celui qui a filmé Duran Duran en concert.
Oui.
Celui qui relève absolument tous les défis, a relevé le défi de remixer Mylène Farmer. Et rien que pour ça, on le félicite.
Qu'est-ce que vous voulez, il est en chômage technique. Il ne peut plus tourner, donc il faut bien qu'il s'occupe.
Pourquoi il ne peut plus?
Parce que...
Il n'y a pas d'argent.
Non, non. Pour de l'expérimental lynchien, aujourd'hui, je pense que c'est difficile. Il faut peut-être demander à A24, mais ils sont trop jeunes, ils ne le connaissent plus. Enfin bref, donc il a remixé quel morceau ?
Un pas connu du commun des mortels que nous sommes.
Connu de vous ?
Non, connu des fans, qui connaissent tout de Mylène. « Je te rends ton amour », ça s'appelle. Donc on va voir si David Lynch a versé dans l'expérimentation ou bien s'il a fait ça avec des moufles. C'est pas fait avec des moufles, c'est fait avec des boules qui aissent.
C'est un remix Caterpillar. Je pense que... Enfin, une fois qu'il a trouvé le truc, il a pu partir aller prendre un café.
Ça peut durer des jours, comme ça. Vous disiez, ça ressemble à un bouchon au Carrefour Léonard.
Ça ressemble aux travaux du Carrefour Léonard. C'est le remix Carrefour Léonard, je pense.
Donc, c'est « Je te rends ton remix ».
Oui.
David Lynch pour Mylène Farmer.
Eh ben, vous savez mettre de l'ambiance. Enfin, moi, je vais en mettre aussi.
C'est de l'information.
Bien sûr.
C'est vous évident. Ne nous parlez pas que de chefs-d'œuvre.
Ah non, surtout pas cette semaine.
Mais la différence, c'est que vous ne les imposez pas à l'antenne.
C'est-à-dire que je ne les choisis pas non plus, c'est l'actualité. Alors, on ne va pas tourner autour du pot pendant 107 ans, c'est également ce mercredi. Alors, hier, on a parlé d'un blockbuster américain de Fall Guy. Aujourd'hui, parlons d'un film majoritairement anglais. Enfin, il y a de l'argent international puisque c'est sous la bannière de Studio Canal. Et c'est donc le fameux biopic sur Amy Winehouse, réalisé par Sam Taylor Johnson, qui est donc une réalisatrice qui avait raconté la jeunesse de John Lennon dans Nowhere Boy, je pense, un film sur lequel elle a découvert Aaron Taylor Johnson, qui est devenu donc son mari et qui est un acteur en vogue, dont on parlait hier d'ailleurs, qui est au générique de Fall Guy.
C'est le gars de Kick-Ass.
Oui, et c'est surtout, enfin, on le murmure, ça fait des semaines,
le
pressenti, mais enfin bon, c'est le 10e pressenti, hein, de toute façon ça les occupe. Donc toujours est-il que, Sam Taylor Johnson a réalisé les péniblement, les 50 nuances de 50 Shades of Grey, c'est elle qui était à la manœuvre avec Dakota Johnson. Et ici, donc, elle s'est accoquinée avec un scénariste anglais, Matt Greenhalgh, qui a déjà fait des biopics et des choses plus tout à fait décentes. Et il fallait évidemment trouver une jeune actrice capable d'incarner Amy Winehouse, grosso modo de 18 à 27 ans. Elle est incarnée par une certaine Marisa Abella, qui vient de séries télévisées, qui est anglaise. Et j'ai regardé dans le générique de fin, elle est créditée sur le chant de plusieurs chansons, donc elle a véritablement chanté. Elle a payé de sa personne. Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on est systématiquement dans du playback? Pas du tout. Il y a un mélange. Cela dit, il n'y a pas 50 chansons non plus. Hein. Il y a les quatre ou cinq titres très reconnaissables, mais c'est pas un film de concert. C'est vraiment un film sur son itinéraire tragique et l'angle d'attaque. C'est évidemment la rencontre avec son mauvais génie, Blake Fielder Civil, qui est joué par Jack O'Connell. Et Jack O'Connell, ça fait à peu près 10 ans qu'on dit que c'est un jeune espoir. On l'a vu dans Invincible, le film réalisé par Angelina Jolie. On l'a vu récemment dans la nouvelle version de Lady Chatterley face à Emma Corrin, qui était un film sorti sur plateforme. Acteur tout à fait... tout à fait solide, mais qui tarde quand même à percer. Ça fait facilement une bonne dizaine d'années que Jack O'Connell, quand même.
Non, la date de péremption est passée.
Je pense. Donc voilà, il incarne ce Blake Fielder dans le rôle du père.
Si ça devait, ça aurait déjà fait.
Voilà, je pense qu'il a raté l'arrêt de tram. Donc, dans le rôle du père, comme ça vous savez tout, dans le rôle du père d'Amy, donc Mitch, le chauffeur de taxi, il y a Eddie Marsan, qu'on ne présente plus, hein, qui joue souvent les... Il ne ressemble pas du tout à Mitch, mais c'est pas grave, il fait le boulot. Et dans le rôle de la grand-mère bien-aimée de Amy, qui était chanteuse dans sa jeunesse elle-même, Leslie Manville, l'excellente Leslie Manville, actrice anglaise dont on parle régulièrement ici. Donc, casting, franchement... assez solide, assez respectable. Cela étant, je disais l'angle d'attaque, c'est vraiment la relation toxique entre Amy et Blake. Mais néanmoins, plus on avance dans le film, plus on a le sentiment que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans cette histoire. Mitch profite pas du tout de sa fille. Mitch, il est plein d'amour. Pas du tout intéressé. Non, il est plein d'amour. Blake, il l'initie aux drogues dures, alors qu'avant ça, il fumait juste des pétards. Mais on ne les voit jamais consommer.
Il n'y a pas de gros plan sur la shooteuse.
On ne les voit jamais consommer. Alors, voilà. Donc, il apparaît comme un mauvais garçon, mais... Un mauvais garçon quand même, sympathique, pas très inquiétant.
C'est un peu le Bohemian Rhapsody de Amy Winehouse.
Oui, c'est-à-dire qu'il a un petit chapeau.
Ça pourra passer sur Disney+.
Ou Disneyland dans séance d'après-midi. C'est un éloge de son talent de chanteuse. Les discussions avec la maison de disques, il y en a une. Pour parler du fait que le premier album Frank, comme le titre Frank n'avait pas percé suffisamment, ils disaient on va pas s'aventurer aux USA avec ce titre, cet album-là.
Ça
parle de la stratégie. Aucune séance de composition ni très
on ne voit pas Mark Ronson.
On l'évoque, mais on ne le voit pas. Il n'y a aucune séance de...
À mon avis, il a dit n'y pensez même pas.
Alors, on n'a pas de séance de répétition, d'écriture. On a vaguement deux, trois chansons dans des pubs de Camden. On sent que Blake n'est pas très intéressé par la question et qu'il préfère aller discuter avec ses potes sur le trottoir. Mais tout ça reste très... très lisse, très
aseptisé. Mais j'imagine qu'on a une belle garde-robe, des super perruques,
on a des très bons tatouages et des très très bonnes perruques pour que ça évolue dans la bonne direction. Je vous dis, la brave Marisa, elle fait tout le boulot, mais à la sortie de ce film de 2 ans, on se dit, à quoi ça rime, d'autant plus que, bon, on a déjà évoqué récemment le pénible biopic sur Bob Marley qui glissait à la surface des choses. Ici, on se dit à quoi ça rime, d'autant plus que, ben, une fois encore, tous les amateurs savent qu'il existe un déchirant et fantastique documentaire de Asif Kapadia qui date de 2015, documentariste qui a par ailleurs livré aussi un très beau portrait d'Ayrton Senna, qui s'intitule tout simplement Amy, où on a envie de dire rien ne manque, et la dimension, la descente aux enfers, la dimension tragique de ce destin.
S'il y a une chose qui manque, le contrôle du père, qui n'a eu aucun regard
sur ce documentaire.
Et donc, le documentaire dit toute la vérité.
Avec l'exploitation tragique. Alors ici, elle est censée être de plus en plus maigre, de plus en plus famélique. On sait bien que les derniers concerts étaient une catastrophe. Tout ça est... On met beaucoup plus en avant la cérémonie des Grammys où elle va tout rafler, et puis on élude les derniers mois, c'était, je sais plus, en ex-Yougoslavie, qui a eu un concert elle a carrément
pas pu chanter.
Mais tout ça n'est absolument pas évoqué. Les paparazzi qui la harcèlent, il y a bien chaque fois 10 figures qui font des flashs dès qu'elle sort de chez elle, mais comparativement au véritable harcèlement des tabloïds britanniques, au cauchemar que ça a représenté, tout ça est terriblement lisse, oui, mais polissée.
Et la musique de Nick Cave.
Bah, la musique de Nick Cave, il fait une très belle chanson qu'on a entendue la semaine dernière dans 5 heures, qui apparaît dans le générique de fin. Et sinon, il n'y a pas beaucoup besoin de musique et d'orchestration. Je veux dire, non, ça c'est un argument publicitaire plus qu'autre chose. Et je me suis dit, en voyant ça, après Maître Farcy, le biopic de... Vous avez évoqué Bohemian Rhapsody, je pensais plus à faire le parallèle avec le biopic de Bob Marley. Je ne sais pas, le syndrome de cette époque... en termes de production qui prend des destins qui sont quand même rugueux, qui bravent plein de tabous, où il y a des choses à dire et des choses à montrer, et qu'on en fait ces versions aseptisées, édulcorées, pour être sûr de ne fâcher personne, de mettre en avant l'artiste. Ce sera intéressant d'observer ça, peut-être quand on aura changé d'époque, sait-on jamais, dans 10 ans, et de dire voilà comment est-ce qu'on envisageait les biopics dans les années 2020, et ça apparaîtra comme un témoignage de presque d'autocensure, de pudeur excessive.
Alors de nettoyage. On profite de fiction, ouais, quelque part, pour ne garder que ouais, les choses qui sont vendables, oui, qu'on a envie de donner à la postérité, en oubliant parfois les parts d'ombre, sans lesquelles l'artiste ne serait pas ce qu'il est, et il n'aurait pas donné ce qu'il a donné.
Évidemment, et c'est un cas tellement emblématique et tellement mythique. Voilà, donc ça n'a vraiment... Une fois encore, ce n'est pas déshonorant sur le plan du casting, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de le vouer aux gémonies, c'est plus dans l'angle d'attaque, dans l'angle de la production. Mais dire que Marisa Abella, une fois encore, elle fait assez bien le travail, tous ces acteurs font assez bien le travail, donc c'est pas nullissime, c'est simplement absolument pas intéressant, et sur le plan intellectuel, malgré tout relativement malhonnête, parce que on connaît le rôle de Mitch, l'opportunisme du paternel qui n'est absolument pas mis en avant ici, quoi. Voilà, donc j'ai envie de presque de donner une petite gommette pour le travail des acteurs, mais voilà.
C'est vous qui voyez. Voilà, c'est vous qui avez vu, donc c'est vous qui voyez.
Oui, mais
c'est pas obligatoire en même temps.
Non, mais non, parce que. Oui, c'est ça. Je suis très mitigé parce que la démarche même, la démarche artistique du film n'est vraiment pas intéressante. Comme vous l'avez bien dit, on prend tout ce qui peut fonctionner commercialement parlant.
Et on se dépêche d'oublier le reste.
Voilà. Et on se dépêche d'oublier le reste. Voilà. Donc, je regardais un peu les critiques. C'est vrai que les critiques anglo-saxonnes qui sont répertoriées sur IMDb, la plupart du temps, ils mettent en avant plutôt le travail de ce Marisa Abella qui ne débérite pas. Ce qui est intéressant, c'est que ce week-end, le film est sorti en Angleterre, que le Blake Fielder est plutôt content, lui, mais forcément, on le montre plutôt comme un bon type sympathique.
C'est quand même un peu le mec qui l'a poussé dans les escaliers. Voilà, et si on dit, elle a glissé.
Donc il est plutôt content. Il dit que c'est plus proche de la vérité. Bien sûr. Voilà. Enfin, si jamais vous le rattrapez un jour, vous m'en direz des nouvelles. Je crois que vous n'êtes pas super pressé. Voilà. Mais rappelons encore pour ceux qui... Je pense que le fameux Emmy, en tout cas, il a peut-être basculé d'une plateforme à l'autre, mais le documentaire de 2015 de Asif Kapadia était dispo sur les plateformes. Et moi-même, qui ne suis pas un grand spécialiste de Amy Winehouse, mais qui ai regardé ce documentaire avec passion, forcément, j'en ai découvert mille fois plus, et ce qui me permet évidemment d'être encore plus réticent par rapport à cette fictionnalisation, quoi.
Il n'est sur aucune plateforme, compris dans le prix.
C'est ça.
Voilà. Mais par exemple, pour 2,99 €, vous pouvez le louer sur Sooner.
Voilà.
Ça me permet de saluer amis de Sooner.
Absolument. Voilà. Donc ça s'intitule tout simplement Back to Black. C'est encore le plus simple, évidemment. Autant rappeler le titre d'un tube. Ils n'allaient pas rappeler ça Rihab, puisque on ne la voit quasi pas. Il y a un moment, elle dit Dad, je vais aller en rire. Ouais. Et on se dit, ah tiens, oui, ah, mais pourquoi au fait? Puisqu'on ne l'a jamais vu dans un état de locumène.
En même temps, Rihab, ça pourrait être le biopic de quelqu'un d'autre.
Oui.
On pense à qui on veut.
Oui, on pense à qui on veut. Cocher les cases. On ramasse les listes à 20h.
Très bien.
Bien, bien. Alors, écoutez, mon cher Hugues.
Oui.
Mon cher vous qui nous écoutez, mon cher Laurent, il y a une quinzaine de jours que je garde sous le coude une chanson.
Ah.
Et j'attendais justement que vous évoquiez ce film qui raconte, qui évoque la vie de Amy Winehouse, parce qu'il y a une quinzaine de jours, j'ai entendu, enfin, toutes les sources sont des sources tout à fait acceptables. J'ai entendu à la radio, sur une autre radio concurrente et néanmoins amie, sur Radio Contact, pour ne pas la nommer, une chanson où je me suis dit, mais c'est qui cette fille qui chante avec ce gars? Et donc j'ai chasamé, j'ai fait quelques recherches, et la voix de cette Summer Walker, que je ne connaissais pas, est absolument incroyable, et elle évoque de façon mais radicale, évidente, violente, la voix de Amy Winehouse. Sauf qu'ici, elle n'est pas en lead sur la chanson, elle participe à la chanson d'un rappeur anglais qui s'appelle Bacar. Ils ont un énorme tube ensemble pour l'instant qui a pour nom Ellen Back. Ce Bacar vient de Camden. Voilà. Mmh. Elle est américaine, elle vient d'Atlanta. Et je lisais un peu son histoire. C'est une fille qui, à pas d'âge, s'est retrouvée orpheline. Elle a été femme de ménage, stripteaseuse. Et aujourd'hui, elle chante, mais c'est des millions d'écoutes sur Spotify. Elle a notamment participé à un duo avec Drake. Donc, c'est quelqu'un qui commence à être vraiment très, très en vue et qui est très courtisé. Et sur cette chanson, je trouvais que le mimétisme, en tout cas la ressemblance avec la voix de Amy Winehouse, mais sans forcément singer, on sent qu'il y a quelque chose, une vibration qui leur est commune. C'est assez flagrant et assez étonnant. Donc je l'avais gardé, c'était l'occasion de l'écouter aujourd'hui puisque vous évoquiez la sortie de ce film. C'est Bacar avec Summer Walker. Voilà pour Bacar, avec surtout Summer Walker.
Qui a déjà son album ? Non, pas encore.
Il y a plein de choses, mais c'est surtout pour l'instant des participations aux enregistrements des autres.
Oui, je sens que vous allez suivre ça de près.
Oui, j'aime bien.
Comme un fin limier. On change complètement de genre et on va dans le monde très peuplé. Hein. C'est un village avec beaucoup de monde, c'est un petit village gaulois, mais il y a beaucoup de monde dedans. Je veux parler du monde des comédies françaises. Il y en a à peu près une semaine, chaque semaine une qui tombe. Et ce nouveau film s'appelle « N'avoue jamais ». Et il est reparti. Il y avait un avoue jamais.
Oui, je vais.
Oui, vous allez retrouver. Je vais vous rappeler, je vais vous parler du duo vedette. Enfin, c'est un trio, mais il y a d'abord un duo sur
Guy la fiche. Mardel.
Guy Mardel. Excusez-moi, je ne me souvenais plus de Guy Mardel. Il va peut-être demander des droits sur le titre de ce film. Donc, n'avoue jamais, il y a le duo, la reconstitution d'un duo.
Non, il ne l'en demandera pas parce que la chanson a été écrite par Françoise Dorin.
Ah oui, d'accord.
Et Summer Walker, elle a plein d'albums.
D'accord.
Mais je pense que ça ramène un peu et ça commence à décoller.
Très bien. Et donc, qui est en vedette et qui est-ce qu'on voit sur l'affiche où ils sont assis côte à côte avec des lunettes fumées et qu'ils ne se regardent plus, ils ont l'air d'avoir un gros problème? André Dussolier et Sabine Azéma. Et c'est le duo de Tanguy, hein. Ah, c'est le cinéma Carte Vermeille.
C'est les Barrios.
C'est le cinéma Carte Vermeille. Ils ont beaucoup été ensemble à l'affiche dans les films d'Alain Resnais, de Feu Alain Resnais. Et puis, évidemment, au niveau de la comédie, il y a une sorte d'inconscient collectif qui... C'est les parents de Tanguy, quoi. Et d'une suite, il y a eu un Tanguy 2 de sinistre mémoire. Et ici, donc, ils incarnent... Ah, il y a eu un Tanguy 2. C'est atroce. C'est atroce.
Ah, ouais. Je pense qui s'appelait que... Tanguy 2.
Et ça a sonné la fin de la carrière de Châtillies. Depuis lors, il n'y a plus rien eu. Ah oui, je vous le conseille, si vous voulez. Si vous voulez vous faire du mal, il y a eu un Tanguy 2.
Ah oui, Tanguy le retour.
Oui, il y il y a eu un Tanguy le retour. Et donc, toujours est-il qu'il s'y retrouve.
Ça.
Ah ouais. On retrouve Arditi et Azéma en vieux couple, qui habite une belle villa dans le sud de la France. Tout va très bien. Et en fait, lui incarne un général à la retraite, François Marceau. Et donc, on sent qu'il a toujours été assez psychorigide dans la tenue de la maison, avec ses trois enfants aussi. Tout commence par une réunion de famille pour un anniversaire. Et toujours est-il que en rangeant son grenier pour l'aménager pour comme salle de jeu pour ses petits-enfants qui grandissent, eh bien, le général François Marceau découvre un coffret avec des lettres empaquetées, et ces lettres sont le témoignage du fait que sa femme a eu une liaison 40 ans plus tôt, une liaison passionnée. Et lui, son sang de militaire ne fait qu'un tour. Il veut laver son honneur. Il veut retrouver la trace de cet homme qui l'a rendu cocu, et veut lui avoir une solide explication avec lui.
Je vous trouvais depuis hier une petite mine. Je me dis, il couve quelque chose. Non, en fait, c'est tout ça. Vous avez vu tout ça.
C'est tout ce que je vois.
Faut prendre un Apollinaris pour digérer tout ça.
C'est tout ce que je vois. Écoutez, bientôt les vacances de printemps.
Ça doit pas vous rester sur l'estomac. Il faut un peu. Voilà.
Alors donc, c'est une sorte de thématique de au théâtre ce soir, et pour cause. C'est réalisé par Yvan Calberac. Et Yvan Calberac est un type qui a commencé par faire des pièces de théâtre à succès, en tout cas à Paris. Il avait fait l'étudiante Monsieur Henri, qui l'a adapté au cinéma. Il avait fait la dégustation avec Campan et Isabelle Carré, qu'ils ont joué au théâtre, qui l'a adapté au cinéma. Et il avait fait aussi Venise n'est pas en Italie, que je pense vous avez vu.
Oui.
Rien que des chefs-d'œuvre.
Mais quel type passionnant.
Attends, mais c'est un type bankable, c'est ça le problème, c'est que les producteurs français, du Calbert, oui, ah oui, avec Dédé, Bibine, on y va,
Est-ce que les rires sont pré-enregistrés dans le film?
Non. Ils arriveront vraiment dans la salle.
Une
c'est
bonne
ça qui
punchline,
est...
on entend. Bon,
est-ce que vous voulez connaître le rôle de l'amant d'il y a 40 ans? Il y a un troisième personnage, évidemment.
Écoutez, oui. Uniquement par charité et parce qu'il faut rentabiliser le temps que vous avez passé à regarder le film, je serais tenté de dire
simplement
c'est la première, par gentillesse.
Je crois que c'est la première rencontre véritable entre ces acteurs qui viennent du monde du cinéma d'auteur, mais surtout les films d'Alain René, quand même, c'était de qualité. Ils sont, l'amant est joué par Thierry Lhermitte, donc c'est le choc de deux mondes. Plus maintenant, mais
oui,
qu'ils sont tous
vieux.
C'est
comme on demande à quelqu'un tu viens d'où? Ah ben, à l'origine, je suis de, je sais pas moi, Temploux, Namur. Mais ça fait 50 ans que je vis à Bruxelles.
Oui.
Donc eux, à l'origine, ils viennent du cinéma d'auteur.
Mais ils sont tous à Paris.
Ça fait 60 ans qu'ils habitent dans le cinéma
commercial.
Mais oui. Mais à l'origine, ils ont habité.
Eh bien, je vais vous dire qui s'en sort dans ce trio de septuagénaires vaillants. C'est Thierry Lhermitte qui s'en sort. Parce que Thierry Lhermitte a un personnage assez sympathique, finalement, puisqu'on va. Par contre, quand Dussolier lui donne un rôle, Dussolier dans les rôles dramatiques peut encore être très bien. On l'a vu dans le film sur l'euthanasie où il jouait le père de Sophie Marceau, dans le film de François Ozon. Tout s'est bien passé. Là, très bien. Mais quand on lui demande de faire de la comédie de boulevard, eh bien, Dédé, il cabotine. Et donc ici... Non, mais pour vous dire, comme c'est le vieux militaire, au lieu de dire oui, il dit affirmatif, évidemment. Donc c'est tout le temps...
Vocabulaire militaire.
Et il prend une tenue de camouflage pour guetter la villa de son ancien rival. Et donc là, on est dans des gros effets, mais terribles. Enfin... du comique d'un autre âge. C'est inimaginable de faire ça. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que il y a deux registres qui coexistent dans le film. Il y a un registre plus doux amer où, par exemple, le personnage incarné par Sabine Azéma, qui revoit aussi son ancien amant, mais se dit finalement, est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester avec lui? Est-ce qu'il n'était quand même pas beaucoup plus drôle que mon militaire de mari? Et donc là, il y a une dimension un petit peu aigre-douce à se dire, est-ce que j'ai bien fait de faire ces 50 ans de mariage avec ce type-là? Et donc là, ça aurait pu glisser vers quelque chose de plus profond. Il y a aussi les rapports du militaire avec ses trois enfants. Il y en a un qui est militaire, donc là, il est très content. Il est joué, je me dis, qui est ce type? Il est joué par Gaël Giraudeau, le frère de Sarah Giraudeau, qui est en train de ne pas percer. Vous voyez? Ça doit être terrible dans les réunions de famille, parce que Sarah Giraudeau est en train de quand même faire vraiment son chemin. Et lui, ben non. Et voilà. Ah oui. Et donc, il y a trois fistons. Il y a un fils militaire, il y a une fille qui est lesbienne, mais qui n'ose pas dire à son père militaire qu'elle est lesbienne.
Oui, puisque
bien
le père
sûr.
Est militaire.
Voilà. Et il y a le fils artiste qui est déconsidéré parce que lui, il est juste montreur de marionnettes et théâtreux, et donc le père n'aime que le fils militaire. Donc vous voyez que c'est très riche, il y a plein de rapports humains, oui. Ça va dans toutes les directions. Alors comment c'est ?
Et c'est pas caricatural déjà.
Pas du tout.
Pas du tout. Quand vous me racontez Dussolier en militaire, ça me fait penser à Guy Montagnier en Général Buzard chez Stéphane Collaro.
Au Collaro Show.
Le petit salopard. Vous voyez, ça fait très Collaro Show, votre truc là.
C'est assez génial. De repenser à Guy Montagnier.
Ah, Guy Montagnier.
Parce que lui-même n'y pense plus.
Non. Mais on est là pour ça. Oui. En même temps.
Ah oui, oui.
Le canard saturnin.
Oui. Guy Montagnier, tonnerre de Brest. Oui. Ça, j'en avais effectivement.
Le cascadeur Thierry Allard. Oui. On est là pour
oui.
ça.
Oui, oui, d'ailleurs, on distribue des Thierry Allard cette semaine-ci. Puisqu'on a fait un film qui a commencé sur l'univers de la cascade. Nous décernons des Thierry Allard. Je suis désolé pour l'instant, je les garde tous dans mon petit coffre.
Vous ne donnez rien. Comme...
Mais non, c'est pas possible. Quoi. Mais en même
vous
ne
voulez
temps,
pas donner un général Buzard d'honneur?
Non.
Un Guy Montagnier d'honneur?
Non, vraiment, c'est... Oh. c'est... Mais je vous en parle parce que je peux vous dire que ça va occuper le terrain. Ça va occuper le terrain, n'avoue jamais. C'est... Voilà, et donc on aimerait bien ligoter les mains d'Yvan Calderac parce que ce type n'est pas une seconde cinéaste.
Ce film a quand même permis de citer
Guy
Martel, Françoise Dorin, le frère de Sarah Giraudeau, Gaël qu'on salue, Guy Montagnier. Et Thierry Allard, déjà mentionné, et le canard saturnin, et Rissé Barrier, compris dans le prix.
C'est quand même,
même énorme.
Oui, mais c'est carte vermeille ce film-ci. Hein, donc toutes les références étaient forcément assez anciennes. N'avoue jamais, voilà, c'est dès ce mercredi, donc dès demain dans nos salles. Et je crois dans pas mal de salles, à mon avis. Pas dans le nord du pays, hein. En Flandre, ils connaissent pas tout ça. Mais par contre, dans le sud, là, je pense que...
Bah, ils échappent à beaucoup de choses, hein, dans le nord.
Oui. Ouais. au Carrefour Léonard, entre autres.
Ça, c'est sûr. Oui, aussi, entre autres.
Bien.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez d'autre?
Ben, on évoquait la semaine dernière des groupes qui parlent le hasard de la technologie, des nouvelles plateformes, des nouveaux usages, tout à coup trouvent sur ces plateformes un tremplin pour accéder à des salles auxquelles ils n'auraient jamais rêvé. Souvenez-vous de TV Girl qu'on évoquait au Lotto Arena, alors que normalement leur trajectoire aurait dû passer par un AB Club.
Oui.
Voilà. Et en revanche, il y a des groupes qui, eux, sont là depuis un moment, mais continuent malgré tout à être des espoirs et à continuer à jouer dans des salles qui sont à la mesure de leur envergure. Et je pense aux Dandy Warhols, voilà, dont on évoquait récemment la sortie d'un nouvel album sur lequel ils accueillent quelques invités, dont Debbie Harry, qu'on a entendu ici avec eux, extrait de cet album qu'ils viendront présenter à la Madeleine. Donc là, ils ont pris à la bonne taille, quoi. C'est-à-dire, j'ai un peu plus large, oui, mais alors je l'ai baillé dedans. Trop petit, on est serré, mais la Madeleine, ça c'est bien.
Bon.
Ça c'est bon. Leur album s'appelle Rockmaker. Ils seront le 22 septembre pour venir préparer leur retour et présenter cet album. Et sur l'album, je vous disais, il y a plusieurs invités. Et en dehors de Debbie Harry, avec laquelle ils partagent une chanson, il y en a une autre sur laquelle ils ont invité Slash, le guitariste des Guns N' Roses.
Oui.
Donc je propose qu'on écoute ça.
La guitare de Slash.
La guitare de Slash avec les Dandy Warhols. Yeah. C'est un peu la chanson d'André Dussolier. Avec la belle guitare de Slash, les Dandy Warhols.
Mais j'ai vérifié un peu l'âge de tous ces effectifs.
Qui, des Dandy Warhols?
Non. De Dédé, Bibine et Thierry. Dédé est l'aîné, hein, il approche des 80, puis c'est Sabine Azéma, puis c'est en troisième, c'est Thierry Lhermitte, qui est le plus jeune des trois. Finalement.
Et Sabine Azéma, elle s'habille toujours en collégienne.
Attendez, ce qui est rassurant, c'est qu'elle n'a plus ses cheveux foufou. Ouais. Période où c'était. Oui. On a l'impression qu'il y avait eu un problème de tableau des plombs chez elle et qu'il y avait eu de l'électricité statique. Mais non, non. Elle a toujours ses cheveux teints en brun pour rester fidèle à son public. Dédé, par contre, a toujours ses cheveux blancs immaculés. Et Thierry Lhermitte a ses cheveux de plus en plus grisonnants, mais tout à fait nature. Les hommes sont tout à fait nature. Il n'y a que Sabine qui fait quelques petites entorses pour paraître
un peu
plus jeune.
Elle est de plus en plus Chantal Goya, quelque part.
Oui, et elle tourne de moins en moins depuis que son mari n'est plus là pour l'employer. Donc elle, à mon avis, y va dès qu'elle peut y aller. Quoi. Voilà.
Terrible tout ça, terrible. Quelle semaine, quel mardi.
Allons rester dans le cinéma français, mais au lieu d'aller dans le cinéma français.
Oui. Tout ça est prémonitoire. Oui. Au début, je vous chantais... Belle mélancolie. Et regardez là, sur quoi on atterrit. Des cheveux blancs, oui. Des teintures, son mari a disparu.
Exactement.
Les Dandy Warhols continuent à jouer à la Madeleine.
Voilà. Mais on va changer de cinéma français. On va aller vers le cinéma français moins richement doté, mais qui va plus facilement en festival. Vous imaginez, N'avoue jamais, c'est du cinéma Auteuil-Neuilly-Passy, côté production, mais qui va dans les grandes salles des Champs-Élysées. Et maintenant, on va vers un cinéma plutôt ancré à gauche, mais qui a d'office un ticket d'entrée dans des sélections de festivals, style Un Certain Regard à Cannes. Vous voyez, c'est le côté... les deux familles du cinéma français, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et ce film de festival s'appelle Salem et c'est réalisé par un certain Jean-Bernard Marlin qui avait déjà fait un premier long métrage qui avait été remarqué au César et il s'est intéressé à un quartier qu'il connaît bien. On va dans un quartier populaire, enfin le quartier des cités à Marseille. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait
rire ?
Quartier populaire, quartier des cités ?
On ne le sentait pas venir du tout, mais allez-y.
Ça s'appelle Salem.
Et Jean-Bernard, donc.
Oui, non,
je ne savais pas tant Jean-Bernard. Vous avez un enfant, que je vais l'appeler Jean-Bernard.
Attendez, il est d'origine... Il est de plein d'origines différentes. Attendez, je vais vous retrouver ça.
Oui, mais ça reste un Jean-Bernard, quoi.
Oui, c'est un Jean-Bernard. Oh là là, j'ai trop d'informations cette semaine-ci, ça va... Il est d'origine arménienne, comme son nom le dit.
Oui, mais je voulais pas vous embêter avec ça.
Jean-Bernard Marlin, voilà. Et donc, toujours est-il qu'il a imaginé une sorte de Roméo et Juliette dans les cités marseillaises d'aujourd'hui. Sans que ça vous emballe déjà. Eh bien, d'un côté, ouais, mais le nom des cités est chouette, hein. Parce qu'il y a la cité, attendez. Il y a
la cité des Rossignols et
non, il y a la cité des Sauterelles et la cité des Grillons. Voilà. Alors.
On dirait un peu le quartier des Fleurs à Boisfort. Vous voyez, un peu.
Oui. Donc, dans le quartier.
Oui, Boisfort, juste à côté du Carrefour Léonard.
Dans le quartier des Sauterelles, il y a Djibril, qui est d'origine comorienne.
Oui.
Et qui est amoureux de Camilla, qui, elle, appartient à une communauté de gitans. Et évidemment, les deux, c'est les Montaigu et les Capulet. Les deux communautés se détestent.
Lui est amoureux, mais elle aussi.
Et elle a 14 ans et ils sont, et ils sont tellement, tellement amoureux qu'elle est enceinte.
Festival tout de suite.
Et qu'elle veut garder l'enfant, l'enfant. Mais le problème est que les communautés se détestent. Oui. Évidemment, chacun est considéré comme un traître à sa communauté. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, suite à l'écran, si ce n'est que Jean-Bernard,
Jean-Bernard,
le personnage principal, Djibril, hein, qui est donc le oui. papa éventuel s'ils décident.
Comment éventuel?
S'ils décident de garder l'enfant.
Oh, il n'est pas de lui.
Si, si, mais.
Ah. Éventuel, il est le père.
Il est le père, il est le père de.
Biologiquement, il est le père.
Biologiquement, il est le père.
Mais va-t-il endosser la responsabilité administrative d'être père?
C'est exactement
va-t-il
ça.
Reconnaître
voilà,
l'enfant?
C'est exactement
mais
ça.
Mais quand vous avez un problème, vous m'appelez.
C'est évident.
Mais vous m'appelez.
Vous êtes au bout
du rouleau, là.
Vous avez bien dit que j'avais une petite mine et que je suis fatigué avec tout ce que j'ai regardé.
Vous pas m'appeler pour un oui, pour un non, pour rien.
Mais pour des choses importantes.
Vraiment... Mais oui.
Quand c'est le quartier des sauterelles et le quartier des grillons et que je risque de mélanger, je fais appel à vous. Ce qui est intéressant dans la deuxième partie du film, c'est que Djibril a une sorte de dimension mystique.
Oui.
Ah. Il est un peu, il se pense guérisseur. Oui. Et donc, quand il y a des coups de feu dans la cité qui se perdent, des règlements de compte et tout, il impose les mains pour essayer de soigner,
les mains chaudes.
Pour essayer de soigner les victimes. Vous voyez, donc ça glisse vers une sorte de mysticisme. Vous voyez, donc c'est Roméo et Juliette dans les cités avec un soupçon. A hint of mysticism, un soupçon de mysticisme. Parce qu'il imagine aussi que l'enfant qui va naître, parce que ça se déroule à deux époques, on va quand même dire que l'enfant va naître, hein, il n'y aura pas d'avortement, l'enfant va naître, et que cet enfant qu'il n'a pas connu...
C'est un chosen one. Mais il fallait commencer par là.
C'est un chosen one, c'est l'élu qui va tout résoudre dans les problèmes de la cité. Alors, je ne sais pas ce qui fume notre ami...
Jibi.
Notre ami Jean Bernard, mais en tout cas, c'est de la bonne et ça a beaucoup beaucoup plu aux sélectionneurs de l'année passée du Festival de Cannes puisqu'ils se sont dit on a tout, on a des cités, on a de la diversité. Et c'est joué par uniquement des acteurs non professionnels. Il fait un petit peu son, vous savez celui qui est aujourd'hui le pornocrate déchu.
Le pornocrate déchu.
Oui, celui qui a eu la palme. Celui qui a eu la palme d'or, l'homme de la graine et le mulet. Je vais le retrouver.
Abdelhadel Kechiche.
Abdelatif Kechiche qui aussi.
Comment j'ai dit Abdelatif?
Moi, c'est moi qui l'ai dit, Abdelatif Kechiche.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit moi?
Vous avez dit juste Abdel, je crois. Abdelhadel.
Non, j'ai dit plus que ça. Je vous ai mis déjà sur la piste.
Oui, c'est déjà pas mal.
Alors, merci au lieu de dénigrer.
Je dis merci.
Incroyable cette émission. C'est moi qui vous dis où on peut voir Amy sur Sooner, que je salue, tout ça, je fais le job, quoi.
Et c'est surtout...
Et vous, on peut peut-être le voir, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas.
Donc, toujours est-il que, où en étais-je?
Il est temps que ça se termine, tout ça.
Où en étais-je? Abdelatif Kechiche, oui. Donc, oui, qui employait aussi des acteurs non professionnels, eh bien, Jean Bernard, il fait son Kechiche.
Mais là, manifestement, le réalisateur aussi est non professionnel, hein.
Non, il filme quand même bien les règlements de compte, hein. Blague à part, on ironise, mais il y a une sorte d'héroïsation, de romantisation de la délinquance qui est un tout petit peu problématique. Bon, je dis ça en passant, voilà. Ça s'appelle Salem et c'est plein de jeunes acteurs formidables qui vont probablement espérer être acteurs parce qu'ils ont monté les marches à Cannes. Et puis qui après vont retourner à leur triste sort.
Et youtubeurs à un moment.
Et ça, c'est dangereux. Enfin voilà. Donc c'était encore.
On ne leur souhaite pas, mais bon.
C'était tous les contrastes du cinéma français avec d'un côté des vieux acteurs et de l'autre côté des jeunes acteurs non professionnels.
Allez, c'est chouette.
C'est pas mal, hein.
Heureusement, demain est un autre jour.
Oh, ouais.
Et mercredi est une autre émission également. Ouais. Merci et désolé, Laurent Lacroix. Désolé pour tout ça.
Signalons que demain, nous ne serons pas. Sur antenne à 19h, il y a un débat économique, mais nous serons présents en podcast.
Le cackleverse aura encore raison de nous.
Mais nous serons présents en podcast.
En podcast.
Voilà, avec des sorties plateforme, si je ne me trompe.
That's right. That's all right, baby. Bien, dites pour se quitter, vous nous évoquiez la semaine dernière un film qui, je pense, cartonne, Civil War.
Oui, ça a très très bien démarré en Belgique et partout ailleurs.
Eh bien, la bande originale du film vient d'arriver, et si je vous en parle, c'est parce qu'il est signé d'une sorte de revenant. Geoff Barrow, la moitié de Portishead, quand on sait que Beth Gibbons sort un album.
Vous savez,
la fille qui n'a pas de look et qui n'a pas de shampoing.
Eh bien,
Geoff Barrow, son ex-partenaire de Portishead, lui signe la bande originale de Civil War, mais il est un habitué du cinéma de...
24 Non, de Alex Garland.
De Alex Garland, dont il a signé pratiquement toutes les musiques depuis plusieurs années. Voilà. Donc il s'y colle aussi pour Civil War. Et je pense que ça lui fera du bien, ainsi qu'à son éditeur et son banquier. Merci mon cher Hugues, merci mon cher Laurent. Et on se quitte avec la musique de Civil War. Elle est
parfait.
Signée Geoff Barrow.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.